Bon, donc on va continuer sur le thème des usages en fait des ressources aux neiges et sur la production. Donc on reste dans le thème qu'on abordait tout à l'heure à la précédente table ronde. Pour synthétiser ce qui a été dit, si je reprends en fait mes notes, ce que j'ai compris, enfin ce qui m'a paru vraiment important dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc Eric et Florence ont rappelé le problème de méconnaissance et les difficultés d'appropriation des ressources aux neiges et puis les problèmes de connaissance aussi de ces ressources. Problème d'image dont on a parlé aussi avec Lara Danon. Et puis, Manuel a rappelé l'importance des établissements. Alors, pour aller dans ce sens, en fait, ce qui nous a paru intéressant dans cette table ronde, c'est d'avoir des retours d'expérience, des exemples, des illustrations de ce qui se passait justement dans plusieurs établissements de France, dans différents contextes. Donc, nous allons écouter lors de cette table ronde donc Agnès Mazard-Chaplon, qui vient de Montpellier, de l'université donc Montpellier 1, qui va nous parler de son expérience à Montpellier en tant que responsable d'un master 2 en marketing. Nous avons aussi Jean-Marie Filoc qui va nous parler donc du problème des usages dans le cadre particulier de la formation continue. Voilà, autre contexte aussi vraiment important. Cécile Chevalier et Guillaume Béziers qui vont nous parler de Dauphine. Et voilà, qu'est-ce qui se passe à Aux-Neiges en fait, enfin à Dauphine pour Aux-Neiges, comment ça se passe. Christian Vanin va nous parler donc de l'expérience aux neiges à Paris 1, voilà, avec ses collègues. Et puis, nous allons aussi écouter le témoignage d'un étudiant, un ancien étudiant Caneige, Guillaume Damé, voilà, qui est parmi nous, qui va nous parler de son expérience d'apprentissage via Caneige. Voilà. Et donc, ça m'a paru intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là, parce que, comme on le rappelait, les ressources sont là pour dans un objectif d'apprentissage. Donc, comment est-ce qu'on apprend avec Caneige? Est-ce qu'on apprend bien ou pas? Là, c'est aussi une question qui est intéressante. Et puis, moi, je vais vous parler vite fait. Donc, on en a déjà parlé de Paris Sud, puisque je suis maître de conférence à Paris Sud et je travaille avec Éric Brianté, en tant que correspondante aux neiges au sein de l'UFR d'économie, gestion et droit. Alors, Aux-Neiges à Paris Sud, pour faire vite, effectivement, c'est un UFR où on a des cours en présentiel, des formations en présentiel. Donc voilà, classique en économie et en gestion, de la licence jusqu'au master. On a aussi des doctorats. Mais la particularité, c'est que quasiment, une grosse partie de ces formations sont disponibles à distance. En fait, nous avons des formations diplômantes à distance qui utilisent aussi donc des ressources aux neiges. Donc, les objectifs, je vous ai pris l'exemple de la licence de gestion, c'est de délivrer des diplômes qui sont complètement identiques à ce qu'on fait en présentiel. Donc, les mêmes diplômes avec les mêmes enseignants et les mêmes enseignements, donc les mêmes cours. Donc, on a besoin effectivement des cours aux neiges pour ça, puisque on s'arrange, on essaie de motiver en fait les enseignants en présentiel à médiatiser leurs cours et à faire effectivement le tutorat, si c'est possible, de ces cours à distance dans le dispositif qu'on appelle, nous, EAD Caneige. Voilà, qui faisait partie de l'ancien campus Caneige. Donc l'objectif, c'est de préparer les étudiants au métier de la gestion et du management. Donc on a besoin de théorie, mais on a aussi besoin de cas et d'illustrations, d'exemples. Et là aussi, en fait, il y a des besoins en fait, au niveau d'Aux-Neiges. L'obtention de la licence permet effectivement l'accès en M1, ensuite en présentiel. On a l'ouverture du M1 à distance qui va se faire en septembre, mais voilà, qui n'est pas encore disponible. Alors, on essaie aussi d'utiliser les ressources aux neiges en fait avec un dispositif hybride, avec nos formations en présentiel. Donc, effectivement, on propose des séminaires de pré-rentrée à nos étudiants, notamment en master, qui sont faits à distance via les cours aux neiges, de façon à refaire des mises à niveau, et aussi pour les étudiants qui sont en double compétence. Donc, par exemple, des ingénieurs qui voudraient faire un master de gestion, c'est possible, à condition de suivre donc les cours aux neiges à distance dans une période donnée. Voilà. Et on utilise aussi beaucoup les cas qui sont disponibles sur Aux-Neiges au maximum, en fait, en complément des cours, notamment des cours qui n'ont pas d'ETD et qui sont uniquement présentiels. Donc, UP Sud et Aux-Neiges, donc c'est une longue histoire, puisque UP Sud est un des établissements fondateurs d'Aux-Neiges, avec Dauphine, d'ailleurs, voilà. Et donc, depuis 2008, moi, j'ai été recrutée en 2008, donc c'est pour ça que je vous ai fait l'historique à relativement court terme. Voilà ce qu'on a produit à Paris Sud. On a produit des macro-ressources, donc des cours entiers qu'on a essayé de granulariser au maximum, pardon. Donc, des cours de gestion FI, de marché financier, des cours de maths, et puis des cours, un cours d'économie monétaire. Mais on privilégie fortement, depuis quelques années, les micro-ressources pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusque-là, notamment le fait de pouvoir se réapproprier les ressources facilement. Donc des cas, des zooms théoriques, par exemple en finance, là, sur l'arbitrage financier ou sur la RSE. On verra tout à l'heure aussi, on a un clip qu'on a tourné sur cette thématique, voilà, sur des points précis. Donc en fonction des compétences de nos enseignants-chercheurs et puis en fonction de nos besoins, en fait, hein, dans nos formations. Alors, produire, c'est pas facile, effectivement. Donc, en fait, j'ai fait ce transparent juste avant, évidemment, de venir au colloque, mais ça reprend quelques points qu'on a déjà évoqués tout à l'heure. Donc, le problème, c'est que il faut identifier les besoins, en fait, au sein des formations. Donc, de quel cours on a besoin, de quel support est-ce qu'on aurait besoin. Le deuxième problème, c'est de motiver les auteurs. Donc, ça, pas facile. On en a parlé, effectivement, tout à l'heure. Et puis, il faut trouver les bons outils de production qui sont adaptés justement à l'auteur et aux besoins, voilà, qui vont être à l'écoute de cet auteur. Donc la ressource reste l'œuvre de l'auteur, ça je voulais le rappeler parce que c'est important aussi pour motiver les auteurs qui ont un peu l'impression de se sentir dépossédés de leur cours, en fait, hein, s'ils rentrent dans un processus de médiatisation. Et puis, surtout, ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, le cours doit être réappropriable facilement par un enseignant, quel qu'il soit, et aussi par les étudiants, hein, voilà ce qui est important. Donc bon, voilà pour l'expérience à Paris Sud. Je vais passer la parole à Agnès Mazard qui va donc nous parler maintenant de cette expérience au neige à Montpellier.
Bonjour à tous. Donc expérience au neige, vous allez voir qu'il s'agit d'abord d'une expérience d'enseignement à distance, d'un master 2 en formation essentiellement continue puisque c'est en partenariat avec le CNED. Donc ce master 2 est piloté donc par l'ISEM à l'université de Montpellier 1. Donc c'est une, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, une très ancienne université, une des premières en Europe, avec beaucoup beaucoup d'étudiants dans beaucoup de disciplines différentes. Hein. Je ne parle que de l'université de Montpellier 1. Et parmi ça, il y a un institut qui est donc l'ISEM, créé en 71, qui est l'Institut des sciences de l'entreprise et du management. Cet institut forme près de 3000 étudiants en gestion, alors en management, en organisation, en stratégie, puis évidemment en comptabilité, contrôle, audit et aussi en marketing, commerce et vente. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un institut qui a vu doubler le nombre de ses étudiants en moins de 5 ans. Ce qui pose évidemment des problèmes et des enjeux réels en matière de format, hein, des formations que l'on peut proposer, puisque les équipes restent de 51 enseignants-chercheurs et beaucoup d'intervenants professionnels. Alors, les parcours sont hors LMD et LMD, autour de licences professionnelles et de licences sciences de gestion. Alors, j'ai essayé de faire un zoom sur les formations en e-learning à Montpellier 1, qui s'articule historiquement, hein, autour d'abord de la licence 2 et licence 3, marketing-vente, et également hôtellerie-tourisme. Les licences comptabilité-finance, management et sciences de gestion, et puis la licence plus par apprentissage, commerce et vente, n'ont pas, elles, d'enseignement à distance. En revanche, va ouvrir à la rentrée prochaine la licence 1 en e-learning, et on voit vraiment un développement de la formation à distance au sein donc de l'ISEM. Si on continue à déployer ces formations jusqu'au M2. On arrive à un enseignement à distance en e-learning sur le master marketing-vente, spécialité négociation et direction d'équipe commerciale, et plus spécifiquement le master 2 dont je m'occupe, savoir négociation donc et direction des équipes commerciales. Il faut savoir que c'est un master qui est décliné en présentiel et en e-learning de la même façon. Il y a donc sur un semestre en présentiel 5 unités d'enseignement et en semestre 2 un stage de 4 mois assez classique. La spécificité de ce format en e-learning, c'est que c'est exactement la même formation avec les mêmes enseignants, mais répartis donc sur 5 semestres, avec un allègement par semestre, puisqu'il n'y a plus des grosses unités d'enseignement, mais que 3 modules par semestre. Et une obligation de faire un stage de 6 mois. Pour faire un petit zoom, en fait, sur un semestre, prenons par exemple l'unité vente à l'international, on le voit éclater sur les 3 semestres 1, 3 et 4 en e-learning. L'intérêt pour les étudiants, évidemment, on le disait, c'est d'arriver à proposer un rythme qui soit adapté à leur activité. Par ailleurs, ce sont souvent des étudiants en poste dans une entreprise et donc ils peuvent mettre à profit cette expérience professionnelle pour la valider sous forme de stage au fil de l'eau. Une autre spécificité, c'est enfin qui se retrouve aussi dans beaucoup d'enseignements hein, à distance, mais qui en M2 est plus rare, c'est les relations privilégiées avec les facilitateurs plus qu'avec les auteurs. Je reviendrai sur ce point. Donc, on fonctionne par classe hein, virtuelle interactive. La rentrée a lieu évidemment à une date donnée. Et puis, il y a plusieurs promotions qui s'échelonnent tout au long de ces 6 mois. Actuellement, par exemple, il y a 2 promotions en cours, l'une qui a commencé en septembre et l'autre et qui terminera donc en janvier prochain et l'autre qui terminera en juin. On travaille avec des supports de cours adaptés par des auteurs et facilités par des intervenants qui sont parfois l'auteur mais pas toujours l'auteur. Alors, l'outil de communication qu'on utilise et qu'on privilégie, hein, c'est une plateforme online format pro. On utilise donc, ils ont un accès sur la plateforme Isen Online. Ils utilisent beaucoup l'Agora, les forums et évidemment le chat en ligne et la visioconférence, la webconférence sur la plateforme qui sont essentielles pour lors des soutenances de mémoire ou des soutenances de stage, évidemment. Et autre point, depuis quelques années sur Montpellier a été mise en place une bibliothèque interuniversitaire qui est accessible à distance et ces étudiants peuvent évidemment tirer profit de cette bibliothèque. C'est un master qui est développé avec le CNED, c'est en partenariat avec le CNED, donc c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de formations continues. Pour un peu faire le pont quand même avec la question d'Onège et sa mise en œuvre, son appropriation par des enseignants et des étudiants sur un M2 tel que celui-là, j'ai mis en regard... Bon, c'est un peu chargé, excusez-moi, mais la spécificité de l'enseignement de ce M2, qui est donc un master 2 professionnalisant, donc centré sur la négociation et le développement et la direction des équipes commerciales, et en regard les ressources au neige qui potentiellement utilisables. Il s'avère que en l'état actuel des choses, aujourd'hui, les auteurs et les facilitateurs ne mobilisent pas les ressources au neige. Voilà. Il faut savoir donc, et je pense qu'il y a un vrai enjeu pour au neige que de justement être relayé localement et surtout impliqué. Et je pense que ça rejoint un petit peu les échanges qui ont eu lieu auparavant, les acteurs et les auteurs dans le développement de ressources ad hoc. Hein, pour ce type de format de diplôme, avec effectivement l'idée que peut-être des activités sont déployées par des facilitateurs sont plus à même d'être de trouver en fait un bassin hein, de ressources dans ce qu'on appelle les micro-ressources.
Bon, merci beaucoup Agnès pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation, sur les dispositifs e-learning donc sur Montpellier ou sur Paris-Sud que je vous ai présenté?
Les contenus pédagogiques que vous développez sont bloqués et ne sont donc pas accessibles au monde entier.
Exactement, oui.
Bon, c'est très dommage. Je pose la même question à Madame Lebec.
Les ressources en fait que nous développons nous à Paris Sud sont toutes labellisées ONEJ. On profite du dispositif ONEJ en partie pour les financer. Donc elles sont accessibles au monde entier. En streaming.
Ce qui est très nouveau pour ONEJ.
Bon, simplement pour apporter une précision, les ressources ONEJ financées par le ministère et donc financées à travers les subventions de la MINES sont accessibles au monde entier. Mais il peut y avoir à l'intérieur de ces ressources, des parties non accessibles, autrement dit des exercices, des exemples, et toute la partie validation, toute la partie suivi, test, peut ne pas être accessible au monde entier et peut être réservée aux étudiants inscrits dans les universités, dans les diplômes. Mais les ressources brutes, l'ensemble de la ressource est globalement accessible.
Je ne connais pas bien le marketing et la profession de management des ventes, mais j'ai un petit problème. C'est quand même une formation professionnelle.
Oui.
Et ce que nous avez présenté, c'est essentiellement des cours en ligne. Enfin, c'est des acquisitions de connaissances.
Il y a des activités et il y a un stage. C'est comme tous les masters, c'est un format de master. La même maquette que le présentiel. Voilà. Sauf que il est sur 18 mois et non plus sur 12 mois, avec un allègement de ce fait du nombre de modules sur un semestre et en parallèle d'un stage qui peut être fait en même temps que la formation.
D'accord.
Oui.
Il n'y a pas de module de travail en commun sur des cas.
Alors c'est chaque.
Genre de choses qui existent habituellement dans ce genre de.
Je n'ai pas donné le détail, mais effectivement il y a gestion de projet, il y a dans les activités, c'est essentiellement des activités en collaboration collaborative par groupe entre les acteurs. J'ai pas donné tout le détail ici. Hein. Je suis responsable de la structure. Donc voilà.
Mais tel que vous le présentiez, on avait l'impression que c'était vraiment des contenus. Enfin des,
non, non, c'est, non, voilà. C'est pour ça que j'ai D'accord. insisté sur le fait qu'il y avait un auteur et un facilitateur. L'auteur, c'est souvent le même que le facilitateur. Mais c'est via la facilitation qu'il y a des activités qui permettent la mise en œuvre
et
la mise en pratique des concepts. Voilà.
Deux questions.
Oui.
Le facilitateur, est-ce qu'il est en présentiel ou en ligne ou en visioconférence?
Il est en ligne. Et après, c'est chaque facilitateur. Il y en a certains qui sont plus innovants, on va dire, que d'autres, qui s'approprient davantage effectivement les outils et qui chatent, font de la visio et d'autres qui se contentent de corriger et d'évaluer en fait des travaux qui leur sont remis de manière asynchrone.
Okay. Voilà. Et le travail collaboratif est fait synchrone ou asynchrone?
Asynchrone. Asynchrone.
Deuxième question.
Oui.
Vous dites que les auteurs, ce sont les enseignants qui développent les contenus. Ils le développent. Et quelle sorte d'outils technologiques ils utilisent pour développer ces contenus?
Ça va être très. On se retrouve face à la tension permanente entre l'investissement pédagogique et sur du l'enseignement à distance. Et les autres impératifs, et donc certains seront développés, mais avec des assez médiatisé, mais pas aussi médiatisé pour ce que j'en voilà, ce que j'ai pu constater, que ce qui peut être fait, par exemple, sur des ressources telles qu'Onège, et puis des choses très basiques. Hein. Et il y a vraiment une forte implication et une motivation des acteurs. Et là, je pense qu'effectivement, le relais et l'appui, la ressource, enfin, et la notoriété, en fait, l'image d'Onège peut vraiment être quelque moteur dans l'implication en local hein, des collègues. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, sur lequel il faut s'appuyer. Pour arriver à des ressources plus riches.
Alors, peut-être que ça serait à ce stade intéressant d'écouter Guillaume Damé sur son expérience d'étudiant au sein des formations Canège, Onège.
Bonjour à tous. Alors, personnellement, j'ai suivi 3 années complètes donc, dans le système Canège de Paris-Sud. J'ai vu des cours à la fois d'Onège et à la fois des cours qui avaient été faits par d'autres enseignants mis sur une plateforme spécifique et réservée à l'enseignement à distance. Il y a eu plusieurs nouveautés qui ont été mises en place sur les 3 années. Par exemple, les séminaires ont été mis en place il y a 2 ans pour regrouper les étudiants au début de la session, au début des semestres, pardon, pour faire un petit suivi du contenu de la matière, de ce qu'attend l'enseignant, pour poser une relation avec l'enseignant. Ensuite, quoi d'autre ? Les cours étaient à la fois interactifs et à la fois en support papier, cours magistraux type polycopier. Voilà, au niveau de la structure des cours. Peut-être parler de mon expérience personnelle oui. Par rapport aux cours. Mais enfin, voilà, on part du principe que Canège et que l'enseignement à distance est quelque chose de très difficile pour les étudiants. C'est parfois vrai, mais... Mais dès l'instant où les ressources sont à disposition et que les professeurs sont assez présents pour répondre aux questions des étudiants, l'enseignement est assez, pas facile, mais il est réalisable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de difficultés, on a le support et l'aide qu'il faut, on a des vraies aides, on a des relations parfois plus proches qu'en présentiel. Je le sais parce que cette année, je suis en présentiel, donc je peux voir un peu la différence. Et c'est vrai que ce lien est assez important dans l'enseignement à distance entre un professeur qui enseigne et l'étudiant qui est à distance. Vraiment, le côté un peu spécifique, c'est qu'on peut être plus proche à distance d'un enseignant qu'en présentiel. Donc, c'est très important à mettre en avant pour moi, parce que ça a vraiment été un vecteur de réussite sur les 3 années. Parce qu'en cas de difficulté, on a tout de suite une aide à des moments... en fonction du temps de réponse du professeur, ce qui est logique, mais en dehors de ça, voilà. Et on a un vrai support qui est mis en place. Quoi d'autre ?
Au niveau des supports que vous avez pu parcourir, est-ce que c'est homogène, hétérogène ou...
C'est assez hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des matières sur lesquelles on va avoir un petit polycopier et pour le reste, on va devoir aller chercher l'information un peu nous-mêmes. Et après, on a des modules de cours qui sont complètement interactifs, qui sont... avec des vidéos, avec des exercices en ligne, avec des TD qui sont organisés avec l'enseignant. Donc voilà, donc on est vraiment sur des supports complètement hétérogènes. On a même eu des travaux de groupe à un moment donné, en 3e année. Entre étudiants, on était en travail de groupe, on devait rendre des devoirs par rapport à une stratégie d'entreprise. Enfin, je ne rentre pas dans le détail. Mais donc même les travaux en groupe ont été développés et sont possibles. Donc, on a vraiment tout type de support. Et parfois, il y a beaucoup d'investissements dans les supports. Et parfois, il y en a un peu moins. Voilà, mais dans l'ensemble, bon.
Voilà. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. Je crois que ce qui est vraiment important, ce qui ressort encore de ce que Agnès vient de nous présenter et à la fois du témoignage de Guillaume, c'est ce que vous appelez à Montpellier le facilitateur. Je trouve que le terme est assez intéressant. On appelle ça des tuteurs à Paris-Sud. Mais c'est vrai que l'idée, c'est pour faciliter l'apprentissage, en fait, hein, des étudiants, ce qui demande aussi de la réactivité de la part des tuteurs, comme le soulignait Guillaume, et puis la participativité, en fait, hein, de l'interaction créée par ce facilitateur pour stimuler les étudiants qui peuvent se sentir un peu seuls, hein, derrière leur ordinateur. Et la qualité du cours, encore une fois de plus, est importante aussi, hein, pour justement stimuler l'interaction. Je vous propose de passer la parole, à moins que vous ayez des questions. Oui, Louise.
Alors Guillaume, si vous aviez été votre propre enseignant de formation à distance, qu'est-ce que vous auriez choisi comme technologie, comme contenu, de la façon de l'enseigner? Si vous-même, vous avez été derrière au lieu d'être dedans, qu'est-ce que vous auriez choisi?
Personnellement, j'aurais choisi deux types de supports. Le premier que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai découvert en L3, c'est la vidéo. Parce qu'on a vraiment une proximité avec l'enseignant qui présente son cours. Et voilà, c'est quelque chose qui est facile pour les étudiants. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des contraintes professionnelles en même temps pendant leur formation. Je sais qu'on a l'exigence universitaire à la fin de l'année qui est très importante, mais on a aussi des gens qui considèrent les études comme de la détente. Et donc, ils ont besoin de comprendre leur matière et le support vidéo se prête beaucoup à ça. Par contre, il ne suffit pas, c'est-à-dire que derrière, il faut des devoirs et des travaux assez réguliers parce que sinon, on n'a pas le niveau à l'examen. Et puis, bien sûr, un support de cours écrit parce que juste avant les examens, généralement, les étudiants se mettent très tardivement au travail. C'est pas une surprise. Donc on a besoin d'un support de cours résumé, enfin écrit, pour pouvoir gagner du temps sur les révisions, puisque voilà, un support vidéo ne permet pas de réviser facilement et rapidement. Et étant donné le facteur temps, c'est préférable de choisir les deux et de combiner les deux. Voilà. Alors, d'après moi.
Quand vous dites vidéo, c'est la distinction que propose Emmanuel tout à l'heure, c'est des vidéos brutes de cours ou alors des vidéos montées avec une structuration du plan et du cours.
Je pense que ce serait plus des vidéos montées, plus qu'un simple... Ouais.
Qu'une... Enrichi avec...
Voilà, enrichi et spécifique au cours. Voilà. Enfin, c'est mon avis, mais ça met plus en relation avec la matière et... C'est peut-être plus facile que de simplement suivre un enseignant qui ne va pas forcément être à l'aise devant la caméra.
D'autres questions ?
Alors, j'ai une question en fait spécifique, juste sur le. On parle de nomadisme et de baladodiffusion. Sur des ressources, en fait, donc je dirais plutôt asynchrones, consultables en ligne, est-ce qu'il y a une plus-value à les proposer aux étudiants, je dirais via un abonnement podcast, téléchargeable, synchronisable avec un mobile, une tablette, que sais-je ? Je parle bien sans connexion, c'est-à-dire sur vos temps de transport. Voilà. Est-ce que vous voyez une pertinence vis-à-vis de ça ou vis-à-vis de vos collègues ?
Il y a une vraie pertinence pour moi. Par contre, ça doit rester au stade de la compréhension du cours. C'est-à-dire qu'on va jamais pouvoir réviser un cours avec, sur iPod ou sur un support numérique classique. Parce qu'à un moment donné, quand on passe l'examen, on est dans un cadre universitaire avec des exigences d'université. Et donc, seule la compréhension ne suffit pas. Donc, pour ouvrir le cours et pour... comprendre le cours, c'est très très bien, mais derrière, pour réviser le cours et réussir le cours, je suis pas sûr que ça suffise. Je le vois par rapport à des supports les plus interactifs qui étaient pas les plus forcément réussis à l'examen, même si c'était les matières qui étaient les mieux comprises.
Merci beaucoup. D'autres questions ?
Cette question me paraît extrêmement grave. Est-ce qu'on doit tirer la conclusion et croire ce que dit Guillaume ? C'est-à-dire que l'interactif, c'est bien, ça permet de s'amuser pendant l'année, et quand on en arrive aux choses sérieuses, il faut revenir au papier, à la gomme, au crayon et au tableau noir ? Est-ce que c'est ça la conclusion qu'il faut en tirer ? Moi, je suis pas pédagogue, je suis pas enseignant, moi, mais...
C'est vrai que la question est intéressante. Mais après, c'est ce que présentait Louise tout à l'heure. C'est, je crois, l'interactivité, les synergies entre tous les supports qui vont être intéressants. Peut-être qu'effectivement, on en revient quand même au papier qui vient, en plus des autres supports, peut-être finaliser la préparation à l'examen. Est-ce que l'un remplace l'autre ? Je pense pas, en fait. Il faut utiliser tout pour avoir une meilleure compréhension. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Filoc qui va nous parler de la formation continue, donc là, dans ce contexte particulier, et donc des usages du e-learning.
Bien, merci beaucoup de cette proposition, invitation à venir vous parler de formation tout au long de la vie. Alors, je ne suis pas venu tout seul. Donc, je suis président de l'Association française de formation continue universitaire qui regroupe tous les services de formation continue universitaire auxquels vous avez peut-être, avec lesquels vous avez peut-être des contacts dans vos établissements respectifs. Alors, contacts plus ou moins bons, vous me le direz, parce qu'on n'a pas nécessairement une réputation à la hauteur de notre efficacité et de notre pratique. On en discutera tout à l'heure. Je suis venu avec deux collègues, un de Brest et Abdeslam, là, qui a une expérience de formation à distance, Pléiade, vous vous rappelez, là, une plateforme du DUT à distance. Et puis Alain Gonzalez, qui est à Paris 13, directeur du service et qui est vice-président de l'association et surtout qui s'occupe du groupe Nouvelles Technologies, Formation à Distance, un groupe de travail qu'on a à l'intérieur du service, enfin de l'association des services de formation continue. Alors, peut-être sera intéressant qu'il complète tout à l'heure peut-être ce que je vais essayer de vous dire. Alors, c'est vrai que c'est pas en rapport direct, peut-être vous demandez un peu quel rapport direct il peut y avoir avec ce que vous avez dit avant. Simplement pour vous dire que les publics qui sont visés par par ONEJ ou par toutes les universités numériques thématiques, finalement, ce sont des apprenants, des étudiants ou des stagiaires qui sont ceux de nos universités. Dans cela, dans les missions de l'université, il y a la formation des adultes. La formation des adultes, aujourd'hui, c'est quand même pas de 450 000 adultes qui viennent à l'université. Alors, ils ne sont pas tous dans les formations diplômantes, hein, il y en a moins d'une centaine de milliers. Mais il y a quand même 10% des diplômés aujourd'hui de l'université qui sont des gens qui sont en reprise d'études, donc pas des jeunes en formation initiale. Bon. Donc du coup, ces gens ont des caractéristiques particulières, non pas en capacité d'apprentissage, ça je ne crois pas, ils sont comme les autres, mais en disponibilité, en temps, en caractéristiques, et puis aussi en support, disons, on va dire, socio-économiques qui leur permettent de suivre les formations qui sont offertes par les établissements. Mais c'est peut-être un petit peu là que je veux en venir. Donc ils sont gérés par les services de formation continue, donc c'est pour cela que je pense que c'était intéressant qu'on puisse ici en parler. Les services de formation continue sont des services communs d'université dont le rôle principal n'est pas de remplacer les UFR ou de remplacer les départements ou quoi que ce soit, mais ce sont des services d'ingénierie qui doivent aider les collègues, aider les départements, aider l'ensemble de la communauté universitaire à répondre à ces besoins particuliers. Donc ils sont dotés de personnel, hein, qui ont des compétences particulières. D'une part, le respect de la réglementation, parce que ces gens qui viennent chez nous ne sont pas des étudiants relevant du code d'éducation strictement, mais ils sont aussi des gens qui relèvent du code du travail. Donc il y a des règles, la formation professionnelle, on est désolé quelque part en France, elle n'est pas confiée à l'éducation nationale. La formation professionnelle continue, elle dépend du ministère du Travail. Hein, donc c'est une autre réglementation. Mais il se trouve qu'elle peut être mise en œuvre par un organisme de formation particulier qui est l'université. Et donc du coup, vous avez en face de vous, forcément, et surtout dans vos formations offertes à distance, ces gens qui ont un statut particulier. Le rôle des services, il est de faire en sorte qu'on respecte la réglementation. Alors à distance, c'est un peu plus compliqué. Parce que la réglementation, elle dit quoi ? Il y a présence, il y a contrôle des présences. Quand ils sont là, ils sont considérés au travail, dans leur entreprise, pour les salariés. Pour un mort d'emploi, c'est d'autres règles qui s'appliquent, mais aussi on contrôle leur présence. Vous savez bien que la distance, transformant la notion de temps et d'espace, fait qu'on a un peu de mal à savoir qui est présent et quoi, et quand est-ce qu'ils travaillent, et est-ce qu'ils travaillent vraiment, et quand, et quelle quantité. Donc ces questions-là ont été abordées évidemment dans nos structures, pas seulement à l'université, évidemment, parce que c'est un problème générique. En France, il faut que dans la réglementation du travail passe le fait que l'on puisse apprendre autrement qu'en étant, comme vous ici aujourd'hui, assis sur des chaises en face de profs qui racontent leurs histoires, ou en salle de TP, ou dans toute autre modalité de présence présentielle, hein, d'apprentissage. Donc le rôle des services, c'est en effet de respecter cette réglementation. Puis c'est aussi d'accompagner ces individus-là qui sont en recherche de quelque chose, en recherche d'une certification, d'un diplôme, qui va leur permettre dans leur parcours personnel et professionnel d'accéder à un nouvel emploi ou d'en retrouver un, hein, tout simplement, ou simplement de monter en compétence dans un domaine particulier. C'est des demandes individuelles. On l'offre pas aux étudiants la plupart du temps, malheureusement, sauf certains enseignants très, très investis, hein, dans l'accompagnement personnel. En formation tout au long de la vie, on dit aujourd'hui, qui est souvent mal comprise d'ailleurs, hein, formation tout au long de la vie, quand on parle de ça, on pense uniquement adulte en reprise. C'est pas vrai, hein, formation tout au long de la vie, ça commence à l'école maternelle et ça finit quand on passe de vie à trépas, en gros, on peut dire ça, puisqu'on apprend tout le temps, je pense. Donc, cette recherche de modalités particulières, plus adaptées, c'est entre autres aussi le rôle de ces services, et c'est pour cela, hein, que le recours à des modalités d'accès à la compétence et des modalités d'accès aux apprentissages qui soient différents ne peut pas laisser insensible le service de formation continue, Et en particulier, et on a beaucoup cru il y a de nombreuses années, puisque ça fait longtemps finalement, l'enseignement à distance allait régler tous nos problèmes de formation d'adultes. Puisque de toute façon, ils pourraient faire ça n'importe quand, n'importe où, et surtout pas dans le temps de travail, surtout quand ils sont chez eux si possible, et puis surtout le week-end et le soir, ou le hors temps de travail. C'est une longue histoire en France, le hors temps de travail. C'est la promotion sociale, hein, les cours du soir. Bon, c'est très bien, ça marche très bien. Nous, on se situe plus dans le champ temps de travail, c'est-à-dire comment des gens font valoir leurs droits à la formation professionnelle, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés ou morts d'emploi. Il y a des droits à la formation professionnelle, congé individuel de formation, droit individuel, enfin tout un tas de sigles plus ou moins bien connus. Et dans ces modalités particulières de prise en charge de ces temps de formation, on doit pouvoir faire entrer des modalités d'apprentissage différentes, hein, qui sont le présentiel. C'est classique, le stage, où on inscrit l'étudiant ou l'adulte dans les formations. En France, on intègre les adultes pour les diplômes nationaux dans les formations initiales, public mixte, sauf quand ils sont suffisamment nombreux pour faire un groupe spécifique. Mais la règle d'intégration, c'est la règle en France. On ne fait pas de diplôme spécifique pour les adultes. Ma licence, master, c'est le même, quel que soit l'âge auquel on y accède, mais surtout quelle que soit la modalité à laquelle on y accède, que ce soit par l'apprentissage, c'est-à-dire alternance de manière générale, ou la formation à distance, alors complète comme vous le faites pour les diplômes que je connais un peu moins bien, c'est pas mon domaine, je suis électronicien. Enfin bon, enfin quoique, après tout, miage, c'est ça, hein, au neige, un peu gestion, gestion, et hein, voilà. Bon, pour ces diplômes-là, master et licence qui sont dans ces domaines-là. Évidemment, sont accessibles en présentiel. J'imagine qu'il y a pas mal d'adultes qui les préparent, mais il y en a aussi quelques-uns. J'ai un peu posé la question à mon collègue de Paris 13, mais il ne semblait pas sûr qu'il y en ait. À Paris 13, je ne sais pas. Si, il y en a. Il y a des gens de Paris 13, des adultes qui préparent ces diplômes-là et qui les font valider de cette manière-là. Alors là, il pourra peut-être en dire un peu plus sur les contraintes et les attentes que nous avons, nous, dans nos services, par rapport à cette modalité d'accès à la formation. Il est clair que, un, la préparation de tout diplôme par la voie de la formation continue, à distance, peut être prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue. On a une directive, on a une circulaire de la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle de 2001. Avant, c'était impossible. Suivre un enseignement à distance, c'était, pour le plaisir, non imputable, on dit, hein, sur ces fonds-là. Depuis 2001, ça l'est. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas si simple que ça parce que beaucoup d'organismes qui prennent en charge, FONGESIF ou autres, parfois, demandent des preuves. Et les preuves, c'est quoi? Vous êtes à distance complète, en numérique ou asynchrone hein, c'est quand est-ce qu'on s'est connecté, donc c'est des relevés de. Alors si c'est des serveurs qui sont chez vous, c'est facile, hein, on nous demande parfois, hein, ces relevés d'heures de connexion, ce qui est débile, hein, quand vous savez comment ça marche, évidemment. Enfin bon, entre la réglementation et la réalité des choses, on peut rester connecté évidemment des heures. Bon, après, on va aller chercher très loin pour savoir si les gens ont vraiment appuyé sur les touches, mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas, c'est imputable. C'est parfois difficile à négocier pour un individu, mais c'est une réalité. D'une manière générale, ce qu'attend un adulte ou ce qu'attend une entreprise qui va inscrire des gens dans le cadre d'une préparation à un diplôme, c'est que l'organisme de formation qui offre ce service, offre un service réellement professionnel, au sens où le service répond à un certain nombre de critères, short qualité en quelque sorte, hein, qui soient opposables lorsqu'on va contester éventuellement la réalité de l'apprentissage. Vous voyez, à la limite, si on a le diplôme, c'est une preuve qu'on l'a réellement bien suivi. Une attente particulière, c'est aussi d'avoir des diplômes qu'on puisse complètement préparer, qui intègrent en tout ou partie des parties à distance. C'est une chose assez. Et puis un accompagnement, alors vous parliez de facilitateur, et c'est un domaine sur lequel on a, nous, particulièrement travaillé, le tutorat, puisqu'on l'appelle comme ça encore, et là, on a élaboré des chartes particulières dans notre cadre pour respecter les contraintes liées au code du travail. Donc voilà ce que j'ai un peu rapidement décrit, comment nous on voit, nous qui sommes des techniciens, hein, du support socio-économique de l'apprentissage, comment on voit l'enseignement à distance. C'est un des moyens de répondre à des questions qui sont temps-distance. quand on a des gens à former qui sont sur des bateaux, on est brestois, c'est pour ça qu'on... Voilà, ils n'ont pas nécessairement la possibilité de suivre tous les cours. Comment on va faire ? Quand on a des gens qui travaillent la nuit, ou qui travaillent plutôt la nuit, oui, ou le jour, enfin peu importe, comment ils vont pouvoir accéder à ces formations ? C'est une vraie question. Nous avons un certain nombre de plateformes mutualisées, en particulier pour les gens qui sont assez éloignés de la formation, et j'en pense en particulier un diplôme qui est emblématique pour nous de l'enseignement à distance, c'est le DAEU, qui diplôme d'accès à l'université, qui permet à des gens qui n'ont pas le bac de préparer l'équivalent du bac. C'est un produit, on va dire, puisqu'on si on parlait de terme de marketing tout à l'heure, c'est un produit que nous promouvons et que nous entendons promouvoir. En gros, 14 000 personnes par an préparent ce. Et beaucoup à distance, parce que justement, ils sont dans des situations soit d'isolement, alors géographique ou social ou autre, qui leur rend pas forcément simple la possibilité d'accéder physiquement aux endroits où on fait les cours en présentiel. Et là, c'est vraiment une réponse qui lie le social à la promotion des individus. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si, Alain, tu pourrais compléter de quelques phrases.
Merci, Monsieur le Président. Notre problématique côté reprise d'études et formation continue, c'est que les ressources existent. Et que la question qui se pose, c'est comment les déployer pour que ça apporte, je dirais, une réponse d'acquisition de compétences. Nous, on va parler plus d'acquisition de compétences que de connaissances pour ces publics-là. Et c'est vrai qu'on a un public, notamment celui qui est en reprise d'études, qu'on repère pas forcément dans nos établissements, qui est bien présent. C'est souvent des personnes qui ont plus de 30 ans, qui décident de reprendre des études en L2 ou en L3, enfin... sans forcément passer par les services formation continue, eh bien ces publics-là, ils rencontrent des difficultés à la fois pour pouvoir suivre complètement les cours, mais aussi des difficultés de positionnement à l'université. Quand on les interroge, et donc lorsqu'on met en place des dispositifs distanciels, il faut apporter aussi des réponses à ces questions-là, ils nous disent, voilà, la première chose, c'est la gestion de mes temps, pas de mon temps stagiaire, mais de l'ensemble des temps qui composent ma journée, temps personnel, quelquefois temps professionnel, et bien sûr le temps universitaire, ce qui est une problématique un peu particulière. Ils ne sont pas là forcément à demeure, et c'est une première réponse qu'on doit apporter à ces publics-là. Il y a un deuxième problème qui est plutôt parce qu'on est sur des publics qui n'ont pas forcément, ou alors il y a très très longtemps, posé, je dirais, leurs fesses sur les bancs universitaires, c'est qu'est-ce que vous attendez de moi ? C'est-à-dire quels sont les exercices que vous me proposez ? Comment vous allez m'évaluer ? La question d'une synthèse sur une lecture PDF ou pas, sur liseuse ou pas, c'est une vraie question qui se pose. Et on va pouvoir avoir on a d'ailleurs des échecs et des abandons liés au fait qu'on n'a pas forcément bien anticipé ces questions que quelquefois le candidat se pose aussi à distance. Et puis le dernier point, c'est l'utilisation de l'ensemble de ses ressources. Alors, lorsque c'est pas du distanciel, c'est la bibliothèque, comment je l'exploite, parce que j'ai pas l'habitude, j'ai vraiment l'impression de savoir faire, hein, je vais sur Internet. Quand on est sur du distanciel avec un ensemble de ressources, il y a tout un tas d'éléments méthodologiques qui sont assez essentiels et qui, du coup, renforcent le rôle du tuteur facilitateur, qui va se retrouver dans la phase distancielle avec des publics qui nécessitent partiellement une approche individuelle, une individualisation de parcours, peut-être plus que les étudiants, parce que je dirais qu'il y a peut-être une plus forte homogénéité. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Donc le facilitateur est important. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé, non pas sur le montage de consortiums de production de ressources, mais on a beaucoup travaillé sur ce tuteur en disant, voilà, les ressources existantes, comment vous pouvez les exploiter. Et il a éminemment un rôle pédagogique d'intervention, de relance des publics. Et encore une fois, ce sont des questions qu'on se pose en formation initiale, mais c'est un public particulier, dont on voit d'ailleurs, quand on regarde leur taux de réussite, pas simplement à distance, qu'il est largement inférieur à la moyenne dans les universités. C'est-à-dire que c'est bien un public qui rencontre des difficultés qui l'amène à abandonner. Alors par ailleurs, on rencontre, en tant que service formation continue, pour ceux qui rentrent dans des logiques de financement, tout un tas de difficultés, je dirais de freins. Jean-Marie a parlé et on en parlait avec le Fongécif Île-de-France il y a encore une heure et demie, la prise en compte de ce travail de l'apprenant n'a de sens, c'est-à-dire la rémunération, Hein, pas le fait qu'on soit, nous, financés pour produire l'action, n'a de sens que si quelqu'un atteste de sa présence, donc soit regroupement, soit synchrone. Et tout le reste disparaît. Donc c'est quand même assez dissuasif pour quelqu'un qui voudrait rentrer dans un congé individuel de formation de se retrouver à être financé, en gros, sur peut-être 10 ou 15% du parcours. D'autres freins, c'est toute la réglementation qui s'applique tout autant au présentiel qu'au distanciel, qui est la preuve du déroulement de l'action, et pas simplement de la présence du candidat, évidemment de la performance, c'est-à-dire de la réussite, qui va être aussi un point très complexe, c'est-à-dire le travail administratif lié au distanciel, compte tenu de la réglementation formation continue, est beaucoup plus important in fine que le travail classique de suivi d'un individu formation continue. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les services sur ce type de public ne sont pas forcément toujours en capacité de... Et puis, dernier point, ça a été évoqué par l'étudiant, mais c'est encore plus prononcé, et puis je m'arrêterai sur ce point-là du côté formation continue, c'est qu'évidemment, quand vous dispensez à distance un cours, le contrôle, il se fait en présentiel, et il y a une perte complète, Joël Houdinet, donc Paris 13, pourrait évoquer sur le DAE, parce que c'est une première des difficultés qu'on a rencontrées, une perte complète de la gestion du temps de l'épreuve. Et on s'est retrouvé avec des candidats, je me souviens, dans le cas du DAE, qui avaient des notes en contrôle continu tout à fait correctes, et qui, au moment de l'épreuve, c'était un match, excusez-moi le terme, contrôle zéro, parce qu'ils n'arrivaient absolument pas à gérer leur temps. Donc il y a aussi cette question-là qui est d'autant plus essentielle en formation continue qu'évidemment, ils sont très friands de refaire les exercices, de revoir la leçon, et à un moment donné, d'avoir cette impression qu'en 2 heures, ils bouclent en fait une question de partiel, ce qui est évidemment rarement le cas si on n'apporte pas, et notamment une réponse en présentiel pour les mettre en situation réelle, je dirais, de faire l'épreuve sur 2 heures.
Je vous propose de continuer et on posera peut-être les questions à la fin, compte tenu du temps qu'il nous reste. On a encore 2 présentations. Donc on va peut-être commencer, j'ai mis le PowerPoint donc par Dauphine, et par donc on va passer maintenant à la production. Hein, donc voilà, premier thème était sur les usages, et donc maintenant sur la production de ces ressources au neige.
Donc Cécile Chevalier, responsable du Centre d'ingénierie pédagogique de l'Université Paris-Dauphine. Donc nous avons en fait commencé à utiliser des ressources dans le cadre du campus numérique Canège avec notre L3 à distance. Donc effectivement, dans le cadre de la L3, la L3 gestion, cette L3 gestion comprenait en fait vraiment un dispositif avec des tuteurs, nous on les appelle les tuteurs à Dauphine. Et ce dispositif de tuteur était, à l'époque de la création du campus numérique, était également auteur de ces ressources. Donc il y a eu un certain nombre de ressources qui ont été créées vraiment pour le L3 de gestion par ces auteurs, enseignants et également donc tuteurs. Ils faisaient également le suivi de leur module. Et puis, au fil du temps, ces modules ont évolué, on les a mis à jour. Et puis, en fait, le dispositif des tuteurs et de la L3 à gestion a beaucoup évolué. Et on s'est aperçu que les anciens tuteurs qui animaient en fait ce dispositif ont passé le relais en fait aux nouvelles équipes qui sont arrivées, puisque maintenant il y a de nouveaux tuteurs qui arrivent et qui finalement se sont quand même malgré tout approprié une bonne partie des ressources en fait qui avaient été créées dans ce L3 gestion. Sinon, pour situer un petit peu le contexte à Dauphine, l'utilisation des ressources se fait via la plateforme de formation, puisqu'elle est en place depuis plus de 10 ans à Dauphine, et on essaye de faire en sorte qu'il y ait un seul accès aux ressources. Donc, le Centre d'ingénierie pédagogique accompagne en fait la création de ces ressources, et donc il y a une équipe aujourd'hui qui est constituée de 10 personnes. Au niveau des contextes d'utilisation, donc les ressources au neige, elles sont utilisées en formation initiale, formation continue et formation à distance. Pour les étudiants en formation initiale, c'est vraiment de la consultation à travers le catalogue, donc c'est vraiment d'utilisation en autonomie. Pour la formation continue, il y a une préconisation qui est faite par certains responsables dans certains programmes de certaines ressources, principalement des micro-ressources, comme des études de cas. Et pour la formation à distance, là, il y a vraiment des cours obligatoires. Donc, c'est la L3 gestion qui avait été créée dans le cadre du campus Canège, qui continue d'exister et qui a été maintenant qui est gérée par la formation continue. Elle a un petit peu évolué. Il y a des sessions de regroupement maintenant. On n'est plus dans l'enseignement à distance, 100% à distance. Mais là, les ressources sont vraiment intégrées vraiment au programme et ce sont finalement l'ensemble des ressources de Canège qui sont utilisées dans le programme. Pour les enseignants, eux, en formation initiale, ils utilisent les ressources qu'ils ont créées dans leur formation au quotidien. Donc, c'est plutôt de l'utilisation en salle, par exemple, pour les vidéos, la présentation de la vidéo directement dans la salle de classe. Ou bien, ils demandent à leurs étudiants de préparer un travail à partir d'une ressource, une étude de cas, et ils vont faire le débriefing de l'étude de cas en classe. Pour la formation continue, c'est pareil, c'est une préconisation à travers le catalogue de cours. Certaines formations préconisent des études de cas. Et en formation à distance, là, il y a vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, un dispositif de tuteur qui utilise les ressources qui sont même parfois créées par d'autres auteurs. Alors nous, on essaye de faire de la communication qui n'est pas toujours facile à faire, en fait, sur ces ressources. On en a parlé à plusieurs reprises. Donc au niveau des étudiants, on les voit en début d'année. Il y a des formations de pré-rentrée où on leur présente les ressources numériques qui existent dans l'université. Et dans le cadre de ces amphis, on parle d'ONEJ. On leur explique qu'ils ont accès à un catalogue de ressources, etc. Dans la formation continue, à la demande des programmes, on donne des formations en salle, donc ce sont plutôt des TD en salle informatique, où là, on va vraiment les faire se connecter à la plateforme et ils vont pouvoir aller voir vraiment les ressources existantes. Et puis, en formation à distance, il y a vraiment de la vraie formation qui leur est proposée, où là, vraiment, ils vont pouvoir manipuler la plateforme et voir les ressources. Pour les enseignants, pour communiquer autour des ressources, on essaye d'organiser des ateliers pour présenter les ressources ONEJ et puis également des témoignages d'auteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui permet vraiment aux enseignants de connaître ONEJ d'une part et puis de voir en fait comment eux, ils pourraient, pourquoi pas, être auteurs de ressources et comment ils peuvent les utiliser dans leurs cours. On utilise aussi beaucoup la diffusion d'informations via notre site, via des mailing lists, etc. Et puis, on essaye de faire de la préconisation. Donc là, au niveau de l'équipe des ingénieurs pédagogiques, on essaye, quand on rencontre les responsables de programme, de leur parler des ressources et puis surtout de les préconiser par rapport à leur programme. Essayer de leur présenter les ressources qui existent, qui correspondent en fait à leur programme, pour les inciter à les utiliser. Ensuite, au niveau du contexte de production, bon, là, j'avais refait un petit schéma pour réexpliquer en fait comment ça se passait la production dans le cadre d'ONEJ. Je vais pas le détailler. ONEJ donc reçoit les subventions, crée les appels à projets. Les appels à projets en fait sont publiés au niveau des établissements et les établissements donc répondent aux appels à projets. Chez nous, en fait, les appels à projets, on essaye d'être vraiment le relais. Donc, on les publie. C'est le Centre d'ingénierie pédagogique qui les publie. Et c'est le Centre d'ingénierie pédagogique aussi qui reçoit les demandes de ces appels à projets pour aider l'enseignant à constituer son dossier, le cahier des charges et puis tous les éléments pour le dépôt de sa ressource. Et du coup, ça permet vraiment au Centre d'ingénierie pédagogique aussi d'étudier vraiment le contexte d'usage en fait possible dans l'université. Donc un enseignant qui va arriver avec une idée de production qui correspondrait vraiment à un usage pour une classe de 20 étudiants, on va peut-être moins préconiser en fait une réalisation dans le cadre d'ONEJ qu'un autre enseignant qui aurait une ressource qui serait plus transversale, qui pourrait être utilisée dans différentes filières et où on sent que vraiment il va pouvoir y avoir un développement de l'usage de cette ressource. Donc en fait, cette sélection, nous, on y participe. Et puis les projets en fait qui seraient moins transversaux, on va peut-être les développer du coup sur propres ressources de l'université. Ce sera peut-être pas des ressources ONEJ. Donc on participe vraiment en quelque sorte à l'accompagnement en fait de ces appels à projets pour qu'ils soient plus ciblés dans le cadre d'ONEJ. Au niveau du catalogue de Dauphine, donc on est une petite structure, donc on produit peu de ressources. Même si on est 10 aujourd'hui, notre activité est plus orientée autour de l'accompagnement sur la plateforme pédagogique que sur vraiment la production. Donc on a, dans le cadre de CANEJ, on avait 7 modules de 40 heures qui existaient, qu'on avait créés avec nos auteurs, que l'on a mis à jour. Et puis depuis 2008, on a créé donc 2 modules complets de 40 heures également, 2 micro-ressources RH Marketing et puis 2 autres micro-ressources en 2011. Et on a environ 10 auteurs qui sont impliqués vraiment dans l'écriture des ressources. Et puis plusieurs tuteurs, donc c'est là où quand même, quelque part, on se dit finalement, ces premières ressources qui ont été créées dans le cadre de la L3 gestion via CANEJ, on a quand même des tuteurs aujourd'hui qui les utilisent et qui ne sont pas auteurs de ces contenus. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir qu'ils, bah, malgré tout, ils les utilisent et comment ils les utilisent. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue Guillaume qui va vous expliquer un peu comment ça se passe au niveau de l'accès des ressources.
Bonjour à tous, Guillaume Béziers, ingénieur en technologie de la formation donc au CIP, qui est le centre d'ingénierie pédagogique de Dauphine. Moi, je vais poursuivre la présentation de Cécile en vous parlant donc très rapidement effectivement de l'accès aux ressources. Merci. Au niveau des points d'accès aux ressources finalement pour les étudiants et les enseignants à Dauphine, donc 3 possibilités. Soit ils accèdent donc via le portail ONEJ, donc l'ancienne adresse qui est marquée ici et puis maintenant la nouvelle hein, en .eu. Soit ils y accèdent via la plateforme pédagogique, puisque nous avons fait le choix finalement de déposer les ressources sur notre plateforme qui s'appelle MyCourse, que je voulais vous montrer, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps et je ne sais pas si ça va être possible ou pas, on va voir. Et une troisième possibilité, encore via la plateforme MyCourse, mais cette fois depuis les espaces de cours des enseignants. Donc, c'est-à-dire que les enseignants ont pu intégrer des ressources directement dans leur espace, ce qui n'oblige pas donc les étudiants à passer par le catalogue en libre accès. Les conditions d'accès à ces ressources, eh ben, c'est très simple. En fait, il suffit d'avoir un accès à la plateforme. Donc, c'est-à-dire que tous les étudiants et tous les enseignants peuvent accéder à ces ressources. Voilà. Par défaut, en fait, hein, toutes les ressources sont accessibles depuis un catalogue de cours, donc sur la page d'accueil de la plateforme. Et on a essayé d'inscrire tous les utilisateurs à ces ressources par défaut. C'est-à-dire que quand l'utilisateur va se connecter sur la plateforme, dans sa liste de cours apparaîtront les différents modules ONEJ. On a très peu de retours statistiques sur l'utilisation de ces ressources, du moins celles qui sont en libre accès, donc disponibles dans le catalogue de Dauphine. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ces ressources, elles sont utilisées surtout sur le L3 à distance, donc qui est donné dans le cadre de la formation continue. C'est le fameux L3 gestion dont parlait Cécile tout à l'heure. Et donc, ces modules sont intégrés dans le parcours de formation et disponibles à l'intérieur des espaces de cours. Voilà comment se décompose le L3 à distance, donc le L3 gestion. Il est divisé en 13 enseignements. Et dans ces enseignements, donc, il y a au moins 5 modules ONEJ qui sont utilisés, donc reliés à ces différents espaces. On s'autorise un petit constat justement à ce niveau-là sur l'utilisation des ressources et qui rejoint finalement ce que disait Madame Mazard tout à l'heure, à savoir que l'enseignant reste quand même le principal promoteur de la ressource, non seulement parce que, bon, premièrement, il va l'utiliser dans son espace de cours, mais aussi parce qu'il est le plus légitime pour communiquer autour de lui sur l'utilité de cette ressource et pour la conseiller à ses pairs. Donc nous, au niveau Cellule TIS, après, ça nous oblige peut-être, ça nous pousse à sélectionner le projet peut-être un peu différemment. C'est-à-dire faire en sorte que lorsqu'on sélectionne un projet, peut-être qu'il réponde vraiment à un besoin précis et faire en sorte de s'assurer que finalement l'enseignant, l'auteur, puisse utiliser cette ressource dans le cadre de son cours.
Par rapport à ce que vous avez dit, il y a quand même 2 chiffres moi qui me surprennent, enfin surtout un, 10 auteurs sur l'ensemble des enseignants-chercheurs de Dauphine, ça paraît effectivement faible. Hein. Donc, ce qui montre effectivement la difficulté de mobiliser des auteurs dans la production de ressources. Je passe la parole à Christian pour Paris 1.
On va faire une intervention à 3 voix, donc je vais essayer d'être assez rapide avec Catherine Loire et Thomas Gros-Perrin, qui ont piloté le film que vous avez sur la clé. Et on a voulu témoigner, puisque le thème c'était la production, d'une production. Juste, si on arrive à mettre deux petits slides pour faire le lien avec la table ronde précédente concernant le positionnement, Manuel le disait, de l'établissement et des services interface par rapport à ces UNT. Voilà. Je voulais insister sur le paradoxe. Effectivement, pour un établissement comme le nôtre, le bilan national, il est très mitigé.
Et on s'est posé la question, est-ce qu'on continue ? Paris 1 est présent sur 4 UNT, je ne parlerai pas du NGF, puisque M. Dumont est ici, il en dira peut-être quelques mots, mais sur UOH, UVED et ONEGE. Eh bien, juste des chiffres, nous avons depuis 5-6 ans aujourd'hui, une dizaine de productions pour ces trois UNT. Par contre, nous avons pratiquement 9000 ressources en ligne et à peu près un millier d'espaces de cours en ligne. Donc voilà, je vous laisse cette réflexion. Pourquoi continuer ? J'ai essayé de mettre deux slides. Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui. Ben, c'est parce que ça participe d'une dynamique. Travailler avec les UNT, ça nous amène à continuer à réfléchir à la diversification des productions. Et on en parlait beaucoup des formats, des différentes technologies ou des différentes techniques, c'est important. La diversification des canaux de diffusion, on ne l'a pas dit suffisamment, mais pour une université, c'est pour son propre site, mais aussi Canal U, aussi iTunes U, et bien d'autres choses aujourd'hui. La technologie des lecteurs exportables, c'est quelque chose qui est très intéressant, je ne m'étendrai pas là-dessus. On a beaucoup entendu à cette table ronde l'aspect enseignement en ligne, et moi je revendique pour Paris 1, et j'ai pris l'historique d'un présentiel enrichi. Toutes les ressources que l'on a produites en partie servent en présentiel. Donc aujourd'hui, justement, là, on l'a vu avec les différentes interventions, les perspectives de diversifier les ressources sur des plateformes et des parcours d'enseignement en ligne nous interpellent. Enfin, ça a été beaucoup dit, c'est l'occasion, à travers les appels à projets notamment, d'accompagner nos équipes et de rester au contact. Ensuite, ça va être plus développé, le deuxième slide, juste un clic et puis je passerai la parole aux collègues. À travers le projet, c'est l'occasion de mobiliser des auteurs, j'y reviens pas, de poser positionner le service TIS, et c'est une grande réflexion qui traverse toutes les universités. On a vu Éric Brionté, son service s'appelle Pédagogie numérique. Nous avons essayé de le positionner Pédagogie et numérique pour des tas de raisons, mais on n'y reviendra pas. Ça permet aussi de renforcer, de valoriser les compétences métiers des collègues. Ingénieur pédagogique, ingénieur de formation, enseignant, accompagnateur, facilitateur, tuteur aujourd'hui. Voilà, c'est aussi une des bonnes raisons de participer à la production. Contribuer autour de la réflexion, Clara n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que la MINES s'est fortement orientée depuis 2 ans autour de ce concept, hein, pédagogie universitaire numérique, concept valise et à voir. Et puis les deux derniers credos pour Paris 1. Et dans un monde où effectivement il y a une forte concurrence, les IDEX, les LABEX, etc., j'en passe des meilleurs. L'UNR, certes, a fédéré des choses. Les UNT, on peut se poser la question sur l'usage des ressources. En tous les cas, pour nous, on a fait un choix. C'est de les rendre gratuites, de partager, parce que c'est les ressources ouvertes et partagées de Paris 1, et de contribuer, comme on dit pompeusement, mais c'est vrai, à la constitution d'un patrimoine francophone.
Donc je suis Catherine Noir, je suis ingénieure en technologie de la formation à Paris 1. Donc avec Thomas, on va surtout vous parler de la production de ressources à Paris 1 et en fait de la production de films, puisqu'il se trouve que pour ONEGE, on a produit 2 films. Voilà. Alors donc on va se baser sur le 2e film qu'on a produit, que vous avez sur la clé USB et que vous avez pu voir en partie à la pause, mais je suis sûre vous verrez en entier sur la clé. Donc déjà pour cadrer rapidement le projet, donc comme je vous l'ai dit, on a déjà une expérience d'un premier film qui était déjà un cas filmé, parce qu'en fait on s'est orienté dans un nouveau genre qui est l'étude de cas filmés, et donc on a déjà commencé à faire un cas filmé déjà pour ONEGE en 2009. Et donc, en 2009, on a répondu pour ce 2e cas à l'appel à projet ONEGE avec donc le système de réponse à appel à projet qu'a expliqué Cécile. Alors, c'est un cours qui est utilisé dans un cours d'éthique de l'entreprise et donc au sein d'un cursus de master de gestion. Alors, pourquoi l'enseignant est venu nous voir et nous a proposé, en fait, de mettre une étude de cas en film? Alors, la première chose, c'est que le M1 de sciences de management, eh bien, c'est une formation très encyclopédique, très théorique. Enfin, vous le savez sûrement plus que moi. Et donc, le cours éthique de l'entreprise est un peu différent dans ce cursus, puisqu'il se base beaucoup plus sur le savoir-être. Donc, il s'agit de mieux se connaître pour l'étudiant, mais surtout de mieux connaître le monde professionnel. de réfléchir sur l'expérience de la vie. Alors, un peu son expérience à lui, mais il a une expérience professionnelle un peu limitée. Il a fait surtout des stages, mais beaucoup d'apprendre de l'expérience des autres. Et c'est en cela qu'en salle de classe, eh bien, on utilise beaucoup les conférences des professionnels. Et d'ailleurs, déjà, l'enseignant, avant ses études de cas filmées, eh bien, il faisait filmer les conférences des professionnels et il les mettait en ligne sur son site de Paris 1. Et donc, il fait aussi analyser des cas pédagogiques, donc évidemment, beaucoup de cas pédagogiques écrits, qui sont à chaque fois des cas réels. Alors, pourquoi il a choisi de faire un film ? Eh bien, ces cas papier ont une limite. Comme il s'agit de cas réels, eh bien, ils sont très complets, même, je dirais, trop complets, parce que on décrit tout, les événements, les personnages, la vie, quoi. Et du coup, on se retrouve avec un cas d'une vingtaine de pages que les étudiants lisent en travers en amphithéâtre parce qu'ils se découragent très vite, il y a beaucoup trop de détails. Et donc derrière, pour l'analyser, ben, ça va être difficile parce qu'ils n'ont pas retenu grand-chose. Et dedans, il y a énormément de sentiments et énormément d'émotions qui vont pas apparaître dans l'écrit. Alors, ce qu'a fait l'enseignant, deuxième stade, il a fait des résumés de cas. Et là, c'était encore pire parce que eh bien, c'était pratiquement impossible à analyser. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est retourné vers nous. Et on a réalisé pour lui un film, donc pour lui et pour l'ensemble de la communauté Onège, bien sûr, puisque ce film est en ligne sur le site Onège. Il est aussi sur Canal U et sur YouTube, et en accès libre, donc c'est pour tout le monde. Et donc, pourquoi un film ? Parce que ben, le film traite plus des émotions, plus de tout ce qui est non-verbal. Si vous le regardez, vous verrez à quel point les acteurs font passer la force des émotions, et ça, dans un cas écrit, c'est impossible de le transmettre. Et donc derrière, et l'enseignant l'a utilisé pas plus tard qu'il y a un mois avec les étudiants, il a dit qu'au niveau travail d'analyse, c'était vraiment extrêmement intéressant. Donc on va vous expliquer très rapidement comment on a produit une séquence. Donc la première étape, eh bien, l'enseignant est venu nous voir avec le premier scénario. Alors, je parlerai même pas d'un scénario parce que c'était un écrit de 20 pages, très touffu, avec plein de personnages, avec plein d'événements. Et quand on a lu ça ensemble avec Thomas, on s'est vraiment demandé comment on allait faire un film là-dessus. Donc, après un travail assez long, eh bien, on a réussi à résumer énormément le texte, à en tirer les choses importantes et à faire un scénario. Et donc, derrière, on a pu commencer la production.
Merci. Donc, bonjour à tous. Thomas Gros-Perrin, réalisateur audiovisuel et multimédia au sein du service TIS de Paris 1. Alors, que je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, sur la deuxième vignette, sont apparues quelques lignes en violet, en rouge. Donc là, c'est déjà le travail en fait de séquençage. De découpage, donc voilà, par séquence, par scène, de chronométrage de chaque scène. On va essayer de mesurer combien d'images on doit produire pour respecter le cas. L'étape suivante est en fait la mise en image très modeste sur le storyboard. Vous connaissez sûrement tous le terme. Donc ça va être une première proposition aux auteurs en fait, traduction avec déjà quelques indications de mise en scène. Une fois que le storyboard est validé, on passe à l'étape de découpage technique. Donc vous savez peut-être que les films ne sont jamais tournés dans l'ordre, ou très très rarement. Donc il est nécessaire d'avoir une sorte de plan de travail, en fait, voilà, en fonction de chaque séquence, de savoir qui on doit convoquer, à quelle heure, peut-être des indications en termes de régie. Alors bon, ça paraît pas très clairement là, mais faites-moi confiance. Ensuite, on va récupérer un petit peu l'emploi du temps de chacun, parce que là, on était vraiment sur une équipe, en termes de tournage pur, qui tourne autour de 8-10 personnes en présentiel. Donc, c'est pas forcément simple et facile de croiser les emplois du temps de chacun. Néanmoins, on y arrive quand même. Donc là, toutes les scènes filmées que vous verrez sur la clé USB ont été filmées en 4-5 jours, avec une sorte de code couleur qui respecte en fait les lieux de tournage. Voilà. L'étape du tournage à proprement parler, avec si vous arrivez à distinguer donc la comédienne au centre, et dans l'ombre il y a environ 4-5 personnes qui travaillent. On distingue une perche avec l'ingénieur du son, derrière le régisseur, moi-même qui était donc derrière la personne qui prenait l'image, enfin, bon bref, réalisateur cadreur. Catherine, qui en plus de son rôle d'ingénieur pédagogique, avait le rôle de script au niveau du tournage, donc elle contrôlait vraiment ce qui était tourné, et les auteurs aussi qui veillaient au respect de, bah aussi un petit peu de la direction d'acteur et puis des émotions qui étaient tentées d'être passées. Nous attaquons enfin la, j'irais la dernière étape, c'est peut-être la plus grosse en fait, la post-production, où là on va tout mettre, tous les médias à la queue leu-leu. Vous verrez que dans le film, il n'y a pas seulement des images tournées, mais aussi des animations flash, des dessins, de la voix off. Donc tout ça a été récupéré au niveau de cette étape de post-production. Donc il va y avoir le montage image, montage son, le mixage, la colorimétrie, les effets spéciaux, pourquoi pas. Et pour être finalisé quelques mois plus tard, voilà, pour le rendu, la livraison du film. Alors, si on prend, qu'on s'amuse à faire un petit décompte, à la réception du premier scénario jusqu'à la livraison, pour un média qui dure 35 minutes, ça nous a pris 2 ans et demi. Ça a nécessité 76 jours rhum pour les auteurs, et au niveau de notre équipe à nous, 133 jours rhum. Rapidement, je vous propose un petit quiz, parce que comme vous n'avez pas vu le film, je vais être très très rapide. C'est un petit jeu, certains l'ont déjà vu, mais voilà. Alors il y a des chiffres, on va essayer de faire correspondre les éléments en face. Alors les lieux de tournage, il y en a eu 4. Les personnes, j'ai dit tout à l'heure 8, 10, j'étais un, 16. Oui alors, 16 c'est tout le générique, hein, donc là il y a vraiment tout le monde, donc bien plus de personnes qu'au niveau du tournage pur et dur. Voilà les remerciements peut-être. Bravo. Alors il ne s'agit pas d'une tonne, mais d'un téraoctet, donc c'est le poids du projet. Donc là ça comprend tous les médias, hein, qui ont été générés. Combien? Allez, humblement, 1 téra, c'est déjà beaucoup. 202 jours de problèmes techniques? Non. Heureusement non. Seulement 7, mais c'est déjà trop. Et enfin, pour aboutir à 202 plans sur la séquence finale. Donc, pour faire un bilan avec Catherine sur l'ensemble du film et du projet, comme elle l'a dit, en fait, le cas filmé, pour nous, il y a un nouveau genre, parce qu'en fait, c'est ni un documentaire, ni un reportage. Voilà. Donc, il a fallu, on s'est posé vraiment des questions d'orientation au niveau du montage. Voilà. Je crois que la limite réglementaire pour les courts-métrages est de 59 minutes. Donc, on est à 35. Pour nous, on considère quand même que c'est un moyen-métrage et pas un court-métrage. Pour notre petite équipe. Et,
Donc Thomas l'a fait ressortir. Pour on est une petite équipe, surtout au niveau audiovisuel. Donc ça a été quand même une grosse production, même si c'est un court-métrage. Donc il a fallu une énorme complémentarité de l'équipe et aussi un engagement. Et on a constaté que toute l'équipe avait monté en compétence avec ces projets. Donc en fait, l'apport de la production au Neige, c'est vraiment cette montée en compétence déjà avec le premier film et aussi avec le deuxième film. Alors sur ce deuxième film, on a eu une comédienne professionnelle qui a joué un rôle très important puisqu'elle nous a aidés dans le scénario, elle nous a donné des idées qu'on n'aurait pas forcément eues. Et en plus, elle nous a aidés dans la direction des acteurs parce que les autres comédiens n'étaient pas des comédiens professionnels. Pour nous, ça a été vraiment une expérience vraiment passionnante. On a eu évidemment des difficultés au niveau pédagogique, au niveau technique, parce que c'était un nouveau genre, parce qu'il fallait s'adapter. Mais ça a été passionnant. Et au niveau de l'équipe, ça a soudé l'équipe, parce que eh bien tout le monde a montré sa compétence et a fait au mieux. Et on est très fiers parce que le film a été sélectionné pour le Festival du film universitaire pédagogique 2012. Voilà, on espère qu'on aura un prix, c'est pas sûr, mais on espère. Voilà, merci.
Est-ce que le film, il est en grains ou on peut le découper en grains de quelques minutes ou pas?
Donc, comme les auteurs sont pas là, je dirais oui, mais... Le problème, c'est le film forme un tout. Et en fait, c'est un grain pédagogique à lui tout seul, puisque c'est l'étude de cas d'un cours éthique de l'entreprise. Et si on le découpe en morceaux, alors on nous a beaucoup proposé de le découper en morceaux. Si on le découpe en morceaux, il va être plus difficile à comprendre.
La notion de découpage, c'était ça ma réaction tout à l'heure. Il faut laisser aussi la liberté aux pédagogues de découper un produit. Il va décider d'utiliser une séquence. On le livre comme ça avec une partie, un guide pédagogique, mais je trouve qu'il y a plein d'utilisations qui n'étaient pas prévues. On a vu des professionnels de RH venir à la présentation en disant, voilà, il nous le faut. Ils en prendront une minute. Mais je vais pas le découper a priori si je suis enseignant. On a tous fait ça comme on est enseignant. On bosse sur des supports. On prend un article. On prend trois phrases d'un article. C'est ça qui m'intéresse.
Comme c'est assez complet, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment difficile. Faut bien, pour le découper, il faut bien le connaître, hein, vraiment.
Oui, après, c'est ce que je disais, c'est juste un problème d'indexation après sur toutes les clés d'entrée du film pour être sûr que le pédagogue le trouve, quelle que soit la catégorie dans laquelle il la cherche.
Alors on a indexé de manière globale, en fait, hein, le film.
Juste par rapport au dernier point, la sélection pour le festival du film universitaire pédagogique, c'est intéressant, c'est pour ça que je disais de participer à ONEJE. Il y avait un degré d'exigence en termes de labellisation scientifique, en termes techniques dans ce festival, que l'on n'a pas, et je le reconnais, lorsqu'on fait une captation brute, je vous ai dit, on a pratiquement 9000 ressources. Parfois, c'est un podcast, parfois, c'est un riche média un peu travaillé. Donc, l'intérêt de ces appels à projets, des comités scientifiques, c'est que ça nous oblige à une exigence pédago-technologique et parfois technopédagogique. On l'a vu, tu peux peut-être en dire deux mots, Florence, je crois que l'exigence du jury était importante. Moi, elle m'a amené à réfléchir à ce que l'on peut produire, que ce soit un film scénarisé, mais que ce soit un clip, une animation. Et ONEJE a toute sa place là-dedans, en aidant d'ailleurs les collègues à se former ou à produire.
On a juste oublié de préciser, je ne sais pas par contre si elle est disponible sur la clé USB, le film est accompagné d'une notice pédagogique. Et deuxième point, juste pour préciser autre chose, l'auteur, donc Arnaud Pellissier-Tanon, est un enseignant qui n'est pas venu faire toc-toc à notre porte en disant « je vais produire 35 minutes ». Ça fait déjà 4 ans qu'on le connaît. Il a commencé par déposer tout simplement ses cours sur un espace pédagogique interactif, hein, les blogs enseignants qu'on a chez Paris 1, à Paris 1. Ensuite, on lui a proposé d'enregistrer en MP3 ses cours, puis de faire des diaporamas sonorisés pour enfin arriver au film. Voilà, donc c'est clair que je pense pas qu'on se lance dans une logique de production aussi massive, enfin aussi grosse et importante avec n'importe qui.
Oui, pour compléter sur les auteurs, en fait, il y avait deux auteurs. Il y avait un auteur de Paris 1 et un auteur d'Evry. Et l'implication des auteurs a été énorme. Ils ont passé des heures, ils ont suivi tout le tournage. Et donc, on ne peut pas faire ça avec n'importe quel auteur, hein, c'est très clair.
Oui, je voulais rebondir sur plusieurs aspects de ce qui a été dit. Bon, tout d'abord, j'invite tout le monde à regarder le film. Vous l'avez sur la clé USB. C'est une étude de cas extrêmement riche avec des aspects relations sociales dans l'entreprise, avec des aspects relations syndicales, relations entre les syndicats et la direction, et qui sont tout à fait intéressants. Alors, simple précision par rapport au financement des différentes ressources qui ont été présentées ici. ONEJE reçoit un financement du ministère pour accompagner les créations de ressources. Alors, à part Montpellier, qui n'a rien fait avec, enfin, dans les exemples présentés, qui ne concernaient pas directement les ressources financées par ONEJE, toutes les autres universités ont fait des réalisations plus ou moins importantes, de nature différente. Depuis le petit clip, on verra un exemple demain de clip sur un concept de 3 minutes, mais donc à très très court, mais qui sera très très riche en enseignement. Donc depuis des petits clips jusqu'à des films, des ressources de différentes natures, des ressources enrichies, ou très peu d'études ou de situations de cours filmés, même enrichis, mais des vrais cours en ligne. Et donc ces financements accompagnent les universités. Ça veut dire qu'elles ne payent pas tout, enfin c'est le cas notamment pour le film, mais elles apportent un complément utile. Alors je voudrais ajouter un point, c'est que pour beaucoup des ressources réalisées, ONEJE bénéficie de l'appui des services du ministère, notamment du CERIMES qui capte aujourd'hui et qui va diffuser jeudi prochain ces journées, du CERIMES qui a réalisé aussi les clips que nous faisons. Et donc nous avons autour et avec le financement de Neige, en plus, hein, l'appui de services du ministère. Donc c'est tout ça qui facilite la réalisation. Et puis il y a surtout l'implication des collègues, des auteurs, des enseignants-chercheurs qui, dans les établissements, créent des cours et s'engagent dans cette création, et puis des services d'accompagnement, les services TIS qui les accompagnent. Il y a beaucoup de questions. Alors je voudrais aussi tout à l'heure reposer une question et rebondir sur les questions des différents publics en formation initiale et formation continue sur lesquels nous avons des choses à dire aussi. Manuel Majada et derrière Florence Ducrot.
Moi, c'était sur l'intervention de Dauphine. Alors, c'est pas franchement une question, c'est plutôt une remarque. Tout à l'heure, Clara demandait qu'est-ce qu'on pouvait mettre en pratique simplement pour aider à propager les choses. Et je voulais simplement remercier Cécile parce que lors d'une précédente journée, elle avait déjà évoqué la pédagothèque. Donc ce qu'elle a évoqué sur la plateforme. Et en fait, cette idée, elle a cheminé. Et puis au niveau du initial, on l'a repris. On en a fait un projet national, tout simplement. Voilà. Donc ça illustre très concrètement comment une cellule TIS a une bonne idée dans un coin, comment on le diffuse et comment derrière on peut se le réapproprier et en faire un projet national, tout simplement. Donc il y aura un exposé au CIEN sur le sujet, mais ça vient de Cécile, tout simplement.
D'où l'intérêt des journées aux neiges et des journées des UNT, hein, pour justement échanger les bonnes idées. Florence ?
Moi, je souhaite peut-être apporter mon point de vue comme producteur audiovisuel. En fonction de ce que vous avez évoqué sur l'expérience du film de Paris 1. Déjà, en termes de coût, je dirais que vous avez beaucoup appris. C'est peut-être ce qui a fait gonfler le coût, parce que si on me demandait à moi, comme producteur, combien, je pense que ça me coûterait, dépenses externes et dépenses de personnel inclus, je dirais une trentaine de milliers d'euros. Donc on est assez loin des chiffres que vous évoquez, parce qu'il n'y a pas énormément de choses, si vous voulez. En termes de... Il n'y a pas de décor, enfin, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc c'est pas un film qui devrait coûter cher, mais vous avez pris du temps, mais vous avez appris le processus. C'est peut-être, je dirais, cette partie apprentissage qui vous a coûté du temps et qui a fait que ça a gonflé les jours hommes dans du service. Mais je ne pense pas qu'en dépenses externes, vous ayez été ruiné. Enfin.
Bon, en tout cas, je pense qu'il est l'heure de clore la table ronde. Je voulais remercier en fait tous les intervenants pour leur présentation sur les usages et sur leur franchise surtout, puisque effectivement, on a essayé d'être le plus transparent possible au travers de ces présentations.